Sophie.
Oh, 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 laissez-moi rire.
Radio Campus.
Oh, bien.
Vous savez que j'ai passé une nuit blanche à cause de vous.
Ah bon? Bah alors, excusez-moi.
Le choc.
Oh, qu'est-ce que je dirais?
Radio Campus.
Ah bah ça marche.
C'était pas toi.
Vraiment.
Bonne, douce, perverse et diabolique. Une pure perfection.
88.3 FM.
Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là.
Et bonjour à toutes et à tous, il est midi sur Radio Campus Orléans. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité. Et comme chaque jour, on commencera par un petit flash actu, un tour de presse des infos internationales, nationales et locales du jour. Puis avec notre invité du jour, on recevra des artistes du groupe Missing. À 12h30, retrouvez Steven qui vous proposera cet été un ensemble de chroniques sur la pièce de théâtre La Nuit d'après, qui aura lieu le 17 et 18 novembre à Beaugency et le 25 novembre à Villarmain. Et enfin, pour finir cette émission, on se rendra au festival Terre du Son qui s'est déroulé ce week-end avec un ensemble d'interviews pour vous faire vivre le festival en décalé durant toutes les deuxièmes parties d'émission de cette semaine. Voilà, c'est le programme dans Écoute ta fac aujourd'hui. Et on enchaîne tout de suite, on commence plutôt en musique avec le titre que vous allez écouter tout de suite. Et tout de suite, on passe au Flash Actu et l'actualité internationale du jour, ou celle plutôt qui a été retenue, c'est l'adoption d'une loi anti-féminicide en Belgique. Le jeudi 29 juin dernier, la Belgique a adopté l'une des premières lois en intégrant la protection des victimes concernant les crimes de... concernant le crime de féminicide. Alors concrètement, ce projet de loi a été porté par Marine Colline Leroy, secrétaire à l'égalité des genres, et par sa prédécesseuse Sarah Shields. Ce sont des mesures comme la formation des forces de l'ordre, la création d'un comité scientifique d'analyse ou encore l'inscription dans la législation belge, tout simplement, du terme féminicide qu'on peut retrouver dans cette loi. Au niveau national, la France est marquée par une sécheresse. À peu près 68% des nappes phréatiques françaises sont en dessous des normales de saison. Le ministre de la Transition écologique a annoncé sur France Inter que bien que la situation de sécheresse ne soit pas aussi importante que l'an dernier, le taux, les capacités de ces nappes n'ont pas été renouvelées. Le ministre prévoit donc plus de contrôles que l'an dernier, invite la population à éviter tout gaspillage et annonce également le lancement d'une application pour consulter localement les restrictions d'eau en cours. Enfin, au niveau local, on reste dans la thématique de l'eau, puisque à Orléans, une augmentation des tarifs de piscine est à prévoir. En effet, les piscines de l'agglomération sont touchées par l'inflation et augmentent leurs tarifs. Un plongeon dans l'eau qui vous coûtera donc plus cher cette année sur Orléans. Voilà, c'était les petites news qu'on pouvait vous passer pour aujourd'hui. On continue l'émission en musique juste avant de recevoir le groupe deux artistes du groupe Missing. We'll be right back.
écoute, écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Et on reçoit comme invité aujourd'hui Mamie Rock et Dev pour le groupe de rock Missing. Bonjour.
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 Alors, j'espère que vous allez bien déjà.
On a chaud.
Il n'y a pas d'air.
Comme beaucoup de nos auditeurs, à mon avis, sûrement peut-être dans leur voiture. Est-ce que, première question, vous pourriez peut-être nous présenter votre parcours et comment vous vous êtes retrouvé dans ce groupe de rock ?
Parcours, alors je vais être brève. Démarré en 2017 avec trois personnes. Et puis étoffé au fur et à mesure par des nouveaux...
Nouveaux arrivants
pour avoir notre formation maintenant actuelle en 2020, donc avec cinq personnes. Voilà, en gros, l'histoire, avec des changements de guitaristes entre temps, de bassistes, de batteurs, enfin, tout ce qui se passe dans un vrai groupe, quoi.
Un groupe vivant qui bouge donc. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre ce groupe, de monter ce groupe ?
La passion de la musique déjà. Et puis, c'est essentiellement ça. Puis avoir cet esprit aussi qu'on peut avoir en dehors du travail, c'est-à-dire faire un peu ce qu'on veut et être un peu déjanté, tout ce qu'on peut pas faire au travail justement.
Parce que du coup, ce groupe de rock, il est monté complètement à côté. Enfin, tout le monde a sa vie professionnelle à côté du groupe.
C'est ça.
Alors là, j'ai la grande chance, il ne va pas aimer, mais j'aime bien le dire, c'est qu'à côté de moi, c'est mon patron.
Voilà, dans la vraie vie, ouais.
Dans la vraie vie.
Je dirige une entreprise et Frédéric qui fait partie de l'équipe. Par contre, sur scène, c'est l'inverse. C'est elle qui nous drive, c'est elle qui dirige, c'est elle qui commande, c'est elle qui chante, donc c'est elle le chef.
Jubilatoire.
Et comment, justement, on fait pour concilier vie professionnelle et en même temps la gestion d'un groupe de musique ?
C'est juste une histoire de gestion du temps, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une passion et qu'on a envie de faire de la musique, de se produire, on arrive toujours à trouver des moments dans sa vie perso, dans sa vie pro, dans sa vie de famille. C'est juste une question d'envie de donner la priorité à la musique, et quand cette envie elle est forte, eh bien, on trouve toujours le temps.
Et du coup, le groupe a été monté en 2017. Lors de sa formation, comment ça s'est passé ?
On était trois copains et on faisait des compos, mais ça donnait rien. Ça donnait vraiment rien. Il n'y avait pas une ligne directrice, c'était juste pour se retrouver. Et puis l'envie a fait qu'au fur et à mesure des années, j'ai eu envie que ça progresse. J'ai progressé aussi, beaucoup. Et on s'est retrouvés avec des personnes qui sont venues dans le groupe, qui nous ont fait énormément progresser et devenir ce qu'on est aujourd'hui. Donc, et malheureusement, dans ce lot-là, il y en a un, le principal, je dirais, qui nous a fait bien, bien avancer, qui doit partir pour des raisons professionnelles, qui aurait dû être là avec nous, c'est dommage. Et donc, du coup, on va retrouver un nouveau guitariste qui va nous redonner des aspirations différentes, etc. Voilà. Donc, c'est perpétuel développement de soi. Il arrive un moment où on arrivera au seuil, je pense, de nos capacités.
Non, je ne pense pas, parce qu'en fait, Missing, c'est un peu un collectif. C'est-à-dire qu'on est un groupe de base, mais quand il manque un guitariste, on en a d'autres. Quand il manque un bassiste, on en a d'autres. Donc, on est un petit peu une sorte d'écosystème dans lequel les gens arrivent, les gens repartent. Alors, effectivement, il y a eu des membres fondateurs qui est encore là aujourd'hui. Il n'y a que Fred, hein, du groupe initial. Mais au fur et à mesure, ouais, ça se construit. Effectivement, on a Victor qui va nous quitter là, cet été, et Julien qui va arriver pour prendre sa place. Mais il n'y a pas de chasse gardée. C'est-à-dire que voilà, potentiellement, quelqu'un peut arriver plus tard, quelqu'un peut partir, quelqu'un peut revenir. Voilà.
Et est-ce que vous vous retrouvez dans un garage, comme on pourrait l'imaginer, ou comment vous faites ? Comment ça se construit ?
Alors maintenant, on est un peu plus structuré que le garage. C'est-à-dire que voilà, on fonctionne sous mode associatif. Donc on a la possibilité, nous, de pouvoir trouver des lieux, facturer. Mais on est aussi dans d'autres associations qui vont nous héberger pour les répètes. Donc que ce soit Garage Azik à Marcilly ou que ce soit au 108 à la Maison Bourgogne, que ce soit à la Maison de la Musique à Saint-Hilaire. Voilà, on a eu des moments, des lieux comme ça un peu différents. À une époque, on a joué vraiment, pas dans un garage, mais dans un bureau, dans une chambre presque, ouais, du batteur de l'époque, Nono. Nono, si tu nous entends. Et voilà, maintenant, on est quand même dans des lieux beaucoup plus qualitatifs, avec des instruments sur place, avec de la sono, avec de quoi s'enregistrer, de quoi s'écouter, de quoi travailler. Voilà, même si notre vie à nous et notre énergie, c'est plutôt la scène, mais on est les gros bosseurs, donc on répète souvent et dans des bonnes conditions. Ouais.
Et comment vous faites pour construire vos musiques que vous proposez ? Parce que du coup, s'il y a plusieurs guitaristes enfin, qui peuvent se remplacer, ça doit être assez compliqué de connaître tous les morceaux, non ?
Alors, il y a des personnes de longue date, hein, qui depuis 5 ans viennent quand ils peuvent. Après, on les côtoie aussi ailleurs. Donc, on est toujours en relation étroite pour dire, tiens, ça, c'est un nouveau projet. Après, ils mettent leurs pattes, ils font ce qu'ils peuvent. Et le but, c'est pas de mettre les gens dans un carcan. C'est tu es comme tu es, ben voilà, on a tel guitariste qui fait telle chose, ça serait bien de ne pas faire la même chose. Fais ce que tu veux à côté. Enfin, il n'y a pas de...
Non, il y a juste l'intégration initiale qui est un peu costaud.
Qui est costaud, ouais.
Parce que là, on a quand même entre 25 et 30 morceaux en fonction des moments, de ce qu'on garde, de ce qu'on garde pas. Donc effectivement, un guitariste qui arrive, il doit se taper les 25-28 morceaux à apprendre et à savoir quelle va être sa place dans ces morceaux-là, ouais.
Ah oui, c'était mieux d'arriver en 2017, en fait.
Ouais, je suis arrivé, je me suis tapé les 28 morceaux.
En très peu de temps, parce qu'on faisait une scène juste, ouais, derrière, donc il n'y a pas eu un peu de pression, là, quand même.
Et du coup, après, vous en proposez des nouveaux, vous en créez des nouveaux aussi, sans doute.
Voilà, quand on a l'opportunité, le temps surtout, le temps, parce qu'à un moment, il faut savoir qu'on fait énormément de concerts, à peu près un, voire deux par mois, quand on a le temps, on répète et on essaie de faire justement des nouveaux morceaux. Et on se questionne beaucoup sur quel style, puisqu'on a notre identité propre aujourd'hui. On est passé par différentes phases. Et aujourd'hui, on a un style donc très, très marqué. Hein. Je ne sais même pas comment on peut se qualifier.
Punk rock.
Punk rock, oui. Punk gentil et rock, hein, c'est ça.
Punk rock, ça serait quoi ?
Je sais pas, je peux pas. Je dis plus du rock grunge, moi, mais bon, tu vois, c'est.
Ouais, c'est pas tellement. C'est vraiment rock'n'roll, mais pas rock'n'roll dans le sens rockabilly Elvis, quoi. C'est vraiment plutôt du rock moderne, on va dire années 90-2000, même si de temps en temps on peut prendre des choses un peu années 80, qu'on va mettre un peu à notre sauce. L'objectif, c'est pas de faire des covers à l'identique. On fait principalement des reprises, hein. On a que aujourd'hui deux morceaux de compos, mais on essaye de retravailler les choses. L'exemple qu'on donne souvent, c'est la reprise de Nirvana qu'on met à la fin de Kids of America, une reprise de Chaka Ponk, voilà, d'un morceau des années 80. Donc ça part d'un morceau très, très disco pour en faire un morceau beaucoup plus rock qui finit pour le coup en grunge. Voilà, celui-là.
Mais... Oui.
Et justement, sur le processus de création des nouvelles musiques, quelles étapes, comment ça se passe avant de créer un nouveau morceau ?
Pour des créations ? Il y en a un qui arrive avec une ligne et puis tout le monde va se mettre autour. Donc c'est...
On commence par la musique quand même.
On commence par la musique. Ouais, la mélodie, elle viendra vraiment qu'à la fin.
On fait un truc qui nous plaît quand on arrive à jammer dessus et que ça nous plaise à tous et que ça nous entraîne et que ça nous donne envie, c'est qu'il y a sûrement un truc. Après, on essaie de structurer, on enregistre et puis Fred, elle rentre, elle écrit et puis elle revient avec
des paroles.
Mais la pression un peu.
Je sais pas si l'on a la pression, non, parce que je suis...
Non, c'est le processus de création qu'on a. C'est vrai qu'il y a des groupes qui vont commencer par écrire des paroles et après il faut trouver une mélodie, ensuite il faut caler des accords. Nous, comme on est plus des joueurs de scène, on va d'abord commencer par jouer, on va jammer. Il va sortir quelque chose ou pas. Et quand il sort quelque chose et qu'on est tous contents sur la structure, il manque les paroles et puis... Derrière,
généralement, c'est les paroles, elles viennent d'une ambiance, de l'ambiance de ce qui est joué, justement, et de ce qu'on a pu pouvoir faire en répétition. Donc, je pense à fa, parce que c'était une boutade, parce que je parle l'anglais comme une vache espagnole, et que tous les titres sont en anglais. Et j'ai Victor qui me dit, tiens, fais fa, alors que c'est far, F-A-R. Et du coup, ça passe à l'ASP. C'est génial. Alors qu'on a un bilingue à côté.
Ouais, c'est pas grave, ça. Ce qui est important, c'est l'énergie.
Ouais, il m'a jamais dit, attention, tu parles très mal l'anglais. C'est l'énergie, c'est ça.
Et l'énergie, justement, quelle énergie vous avez envie de transmettre dans vos musiques aux gens?
La joie, la bonne humeur, le lâcher-prise. C'est vrai que Fred disait que sur scène, c'est différent de la vie pro parce qu'on peut se permettre des choses. Et voilà, je disais tout à l'heure qu'on a un groupe de scène. C'est vrai qu'on essaye entre nous de se faire plaisir sur scène. Quand on a la possibilité d'aller potentiellement carrément faire des solos dans le public, faire monter des gens sur scène, qu'il y a d'autres musiciens qui montent aussi. Enfin, voilà, c'est le partage. C'est le partage et la bonne humeur. Et quitte à faire des trucs un peu à l'arrache ou déjantés de temps en temps. Mais si en face, le public est réceptif, bah, ça nous fait plaisir, quoi.
C'est ça.
Et ce public, vous avez l'occasion de le voir assez régulièrement? Comment ça se passe et comment même vous vivez cette rencontre avec le public?
Il change au gré de... Alors, on a un petit panel qui est fidèle, mais il change au gré des lieux où on va, parce que maintenant, les gens se déplacent de moins en moins, il faut le savoir. Et puis, il change au niveau des événements également. Parce que si c'est une fête de la musique, on va trouver des 15-80 ans.
C'est ça.
Alors que notre moyenne d'âge, généralement, c'est 45-50 ans, hein. C'est beaucoup plus boomers, hein, c'est ça,
c'est, ce bah, c'est ceux qui connaissent le rock'n'roll depuis longtemps et qui ont envie aujourd'hui d'avoir de la musique qui envoie avec des guitares électriques. C'est vrai que c'est vraiment cette base-là. Donc il y a eu plein de concerts où on avait plus de gens de 50 ans que de jeunes de 25. Les jeunes commencent à se réintéresser aux musiques électriques. Il y a des groupes comme Ombrage, avec qui on a partagé la scène plein de fois, voilà, qui sont des petits jeunes qui envoient, comme dans les années 80-90. Mais sinon, non, on est plutôt sur un public qui est pas jeune. Voilà. Voilà, comme nous, quoi.
Et est-ce que, justement, en fonction du public avec qui auquel vous êtes confronté, est-ce que vous adaptez votre musique?
Non, c'est eux qui s'adaptent. C'est pas nous.
Ça serait un con.
Non, non, typiquement, quand on fait un concert dans un lieu qu'on connaît bien, avec des gens qu'on connaît bien, typiquement, on a fait une fois un concert au Dropkick. C'était notre concert, les gens sont venus nous voir, nous. C'était notre public, donc là on était plus sur des, voilà, on va dire 35, 50 ans, 60 ans même, au Dropkick, pour le coup. Par contre, à la fête de la musique, eh bien, y a tous ceux qui sont là, qui sont dehors, qui ont envie de se faire plaisir, ils voient que ça bouge, ils voient qu'on ambiance. Donc là, typiquement, cette année, à la fête de la musique, on avait des gens qui étaient beaucoup, beaucoup plus jeunes face à nous et qui sont restés voilà, jusqu'à la fin.
Jusqu'à la fin.
Et qui étaient plutôt des gens qui avaient entre 20 et 30 ans max, quoi.
Donc le rock, ça continue à parler, hein.
Ouais,
surtout en fin de soirée.
C'est dans les veines. Quoi
Et du coup, vous faites aussi des partages, vous disiez, de scènes avec d'autres artistes comme Ombrage?
Ouais, régulièrement, en fait, en fonction des concerts, en fonction de ce qui nous est proposé, puis en fonction aussi de ce dont a besoin le public ou le lieu où on va. Parce que, alors nous, on est en capacité de faire jusqu'à quasi 3 heures de set, mais... de temps en temps, voilà, on va partager la scène, on va faire une heure ou une heure et demie, puis un autre groupe, puis un autre groupe. Et c'est vrai que ça, on aime bien, parce que ça permet voilà, d'échanger, ça permet aussi pour le public de découvrir différentes choses, et potentiellement de prendre chez les uns et les autres voilà, des choses, de l'inspiration.
Et 3 heures de scène à tenir,
c'est génial.
Ça doit être intense. Comment vous faites au niveau du corps pour...
Ça dépend, c'est soit Monster, soit Red Bull, mais globalement, ou café. Mais en tout cas, c'est pas bière. C'est-à-dire que,
non.
Voilà, si on veut tenir, contrairement aux idées reçues, sexe, drogue et rock'n'roll, l'alcool, on va l'enlever, la drogue, on va l'enlever aussi. Non, on va enlever aussi. mais non, faut être clean. Le truc, c'est ça, c'est que... si on veut être capable d'assurer sur 2h30 ou 3h de set, souvent on fait une pause plus pour le public que pour nous.
Qu'il soit, parce voilà, que, voilà, ça le calme les oreilles.
Ça descend un peu l'énergie. Mais nous, on ne voit pas le temps passer. C'est-à-dire que quand on est sur scène, à l'inverse, quand on fait des petits sets d'une heure, une heure et demie, ça va trop vite. On est frustré parce qu'on a l'habitude de faire des... voilà. Pour nous, ouais, 2h, 2h30, c'est normal. C'est pas long.
Et si vous deviez donner... un mot pour décrire votre sensation d'être dans ce groupe. Est-ce que vous en avez un?
Électrique.
Un mot, moi, je dirais deuxième famille. Il y en a deux.
C'est pas grave, on va compter le 2 pour 1.
Deuxième famille électrique.
Ouais, c'est ça.
Et pour inviter les auditeurs, parce qu'on approche à la fin de cette interview, inviter les auditeurs à aller vous voir. Est-ce que vous avez des prochaines dates à nous communiquer?
Oui, alors déjà, on a un site internet, on a une page Facebook, missing.loiret. Alors Facebook, oui, pour les boomers. Après Insta, c'est toi qui le dis, ouais. Parce que je ne suis pas bonne, moi, là-dedans.
Oui, ils vont trouver Missing Loiret aussi. Ouais.
Missing Loiret. Donc les prochains. Le 18 août... C'est un samedi, je crois, ou le 19. 19 août, c'est à Saint-Jean-de-Bray, la Guinguette. Après, nous avons le 2 septembre, au Labyrinthe de Beaugency. Et après, nous avons Maro au Pré pour les jardins en fête. Et entre-temps, on va intégrer le nouveau guitariste. Donc, on va se calmer un peu là, pour lui laisser le temps.
Ouais, on va faire des répétitions.
On va faire beaucoup, beaucoup de répétitions pour être au top de chez top. On a déjà une date en décembre là, pour l'Argonaute. Donc voilà, faut savoir, ouais, c'est à peu près deux par mois, mais bon là on va se calmer pour intégrer correctement le Jules.
Eh ben merci beaucoup d'avoir merci pris le temps vous. De répondre à toutes nos questions sur Radio Campus Orléans et on le rappelle, on peut vous retrouver sur site internet, Facebook et Insta.
C'est ça.
Voilà. Eh ben merci beaucoup.
Merci à vous.
Me, babe. Shoot that Glock 9. Jiggy nigga, I'm about mine. Pinky ring and my watch shine. Yo, bitch, you calling my hotline. Why, bug, you look cockeyed. Big pocket, sit lopsided. Talk stupid, get your mouth wide. We bout it, and route it. It's all in my jock, huh? Pretty nigga might stop time. Told y'all young niggas running shit. Including red lights and stop sign. ASAP niggas on the scene, huh? Young drill niggas on my team, huh? Serving fiends, huh? Bitches green, huh? See the blue. We'll be right back.
sur le thème du partage, on va y rester un petit peu. Aujourd'hui, à l'heure des violences policières et des débats que ça engendre, je voudrais qu'on dézoome un peu et qu'on philosophe un petit peu sur le séparatisme et la haine de l'autre. Rigolade en perspective. Même si je devine que certains fantasment à l'idée d'une chronique 100% philo, enlevez la main de vos slips, je vous propose de le faire en parlant théâtre. Alors avant de commencer, petit disclaimer, je ne suis ni un critique de pièces ni un aficionado du théâtre. Mais je suis un grand amoureux de tout ce qui peut donner tort au système discriminant et émissaire des discours de haine. Ce système surreprésenté, créateur de discorde et d'opposition, générant plus de rage que d'avenir. J'avais prévenu, c'est une chronique fun. Hein. Cette rage, parfois aveugle, ne doit pas prendre le dessus. Mais qu'y a-t-il comme perspective ? Bah les amis, pour trouver une réponse, le mardi 27 juin dernier, je me suis rendu au théâtre du Puy de Manu à Beaugency pour assister à la non-représentation d'une pièce intitulée « La nuit d'après ». Une non-représentation parce qu'il s'agissait d'un filage, un test avant la vraie représentation. Mais déjà à ce stade, je peux vous dire que l'autrice Éléonore Gon et la metteuse en scène Magali Beruet ont proposé une pièce très inspirée et une réelle bouffée d'espoir qui montre l'existence d'alternatives à la résignation ou à la violence destructrice. Il faut préciser que la pièce a été rédigée post-Covid. La pièce répond au, vous savez, ce petit post-it qu'on a eu tout le monde pour le monde d'après, le déconfinement, même dessus, c'était marqué « On change les trucs de merde ». Heureusement que certains l'ont gardé pour rester dans le thème. La période Covid a été pour tous un moment d'isolement et où beaucoup se sont aperçus que le monde manque pas mal d'humanité. Et on s'était dit qu'après on lutterait contre cet isolationnisme aujourd'hui prôné par le gouvernement. Rien ne va et je me dis qu'on ne comprend vraiment rien. On vient de vivre une plaie d'Égypte et le monde a repris pareil. Sans vous spoiler l'histoire, on retrouve deux personnages. Pierre qui est joué par Gilles Joanneau et le Pierrot, clairement, on ne va pas se le cacher, ça va pas fort. C'est alors que Dionysos, qui est joué par Céline Piscionneri, vient pour le sauver de ses démons, de l'ombre qui pèse sur lui. On découvre alors comment Dionysos va s'y prendre pour sauver un homme qui se retrouve privé de sa lumière. Le problème, c'est qu'elle-même n'est plus le halo de lumière qu'elle fut. Ce qui m'a frappé dans cette pièce, c'est le texte. Il est à la fois poétique et très terre-à-terre, presque dit. Comme chaque cage à oiseaux fait son nid d'une manière qui lui est propre et significative de qui il est, ce mélange des styles est peuplé des mille et une choses qui font l'autrice. Il y a toute une parallèle entre deux mondes qui finissent par se ressembler. Et ce texte, c'est deux mondes qui se rencontrent et qui disent la même chose, mais avec des mots différents. Tout l'intérêt de la pièce, c'est d'observer ces mondes communiqués et comment ils se retrouvent. Le cœur du propos, c'est donc la cohabitation. Est-ce qu'on habite l'espace en harmonie avec lesquels on le partage ? À une époque où on voit une augmentation de la politisation et l'instrumentalisation de la haine de l'autre, la multiplication des cas de violence aveugle motivés par le désarroi, la consternation ou la colère, eh ben, y a un souffle léger de tolérance et de partage a de quoi faire du bien et rappeler qu'un autre monde est encore possible. C'est vrai quoi. La vie est courte et on se prend la tête avec des cons qui, avec des discours d'enfumage, veulent qu'on se batte pour eux. Moi je les vois un peu comme, vous savez, ces gamins capricieux que t'as envie de shooter, surtout quand tu vois ses parents lui dire « Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon petit Emmanuel? Tu veux quelque chose ? Mais putain, laisse-le dans son coin, Aurélie, qu'il se démerde s'il n'est pas content. » Donc venez, on reste dans le thème du changement. On les laisse dans leur coin. Et nous, on danse, on mange, on baise. Le gamin, il finit toujours par comprendre qu'il aura pas ce qu'il veut. Et il rejoint l'endroit où on kiffe. Donc, auditrice et auditeur, je vous invite grandement à venir avec moi à cette pièce qui se jouera les 17 et 18 novembre à Beaugency et le 25 novembre à Villermain. Moi, j'envoie beaucoup de force à Éléonore et l'équipe avec laquelle elle taffe, et je leur souhaite le succès qu'ils méritent pour ce travail. Et d'ici là, je reviendrai vers vous pour vous en dire un peu plus sur cette aventure théâtrale. Merci de m'avoir écouté.
Et il est 12h50 sur Radio Campus Orléans. Pour finir cette émission, comme promis cette semaine, en deuxième partie d'émission, on va vous faire vivre ou revivre, si vous y étiez, le festival Terre du Son. C'était vers Tours, au domaine de Candé. Et aujourd'hui, on a une petite interview de Philippe, qui justement s'occupe de la gestion du domaine de Candé, vu qu'il est gardien du château. Je vous laisse écouter. Et on est au festival Terre du Son, au pied du château du domaine
Candé,
Philippe, du domaine de Candé.
Domaine de Candé, le fabuleux domaine de Candé.
Et Philippe, qu'est-ce que tu fais toi au festival Terre du Son et même de façon plus générale?
Alors moi, de façon globale, je suis l'un des deux gardiens du château. Je suis arrivé depuis peu, depuis le 15 mai, donc c'est tout nouveau, tout frais, donc je suis encore en pleine découverte. Et voilà, chaque jour je découvre des nouvelles choses, il y a énormément de choses à voir, à découvrir, et voilà, c'est très intéressant.
Alors, ce château de Candé, c'est bien
de
ça?
Candé.
De Candé.
Candé, avec un C.
Je ne vais pas réussir à le prononcer. Il est placé en haut d'une butte.
C'est ça.
Et on a une super vue, l'architecture est quand même très travaillée.
Exactement. Donc, il y a plusieurs, époques qui ont été construites. À la base, voilà, c'était juste un petit fortin. Donc j'ai plus les dates exactes, mais après il y a eu des gros travaux, donc j'ai pris quelques notes. Entre 1499 et 1504, François Brissonnet, maire de Tours et grand argentier du roi Louis XII, a fait construire un pavillon de style Renaissance. Et après, donc là, on se projette beaucoup plus tard. En 1853 à 1927, la famille Del Castillo, transforme ce domaine agricole en propriété autosuffisante. Donc les Del Castillo, c'était des gens qui avaient fait fortune au niveau de la canne. Donc c'était des Cubains, des Américano-Cubains. Et donc voilà, ils ont investi ici, ils ont fait beaucoup de travaux. Donc ça a pris un essor complètement différent. Quoi.
Et le château a complètement changé
de structure. Le château a complètement changé. Il a encore plus changé après. En 1927, alors là, c'est un monsieur Charles Bedeau et Fern Bedeau, sa femme, un franco-américain. Lui, il était millionnaire. À la base, il s'était inspiré du taylorisme, une méthode
de production.
Voilà. Il en a fait, je crois qu'elle porte son nom, il me semble, jusqu'il y a encore quelques années, encore dans des genre Oxford ou quoi, sa méthode était encore employée. Donc, il faudra vérifier. Donc il a fait vraiment énormément fortune avec ça, et donc il a racheté le château et il a énormément modernisé. Par exemple, il a fait installer un des premiers terminaux téléphoniques, parce que lui il est toujours en relation avec les États-Unis. Voilà, c'était le travail. Donc dans toutes les pièces dans le château, il y a un téléphone, et ce qui est intéressant, c'est que le téléphone, on ne le voit pas. Il est caché dans des petites alcôves, dans des petites pièces, sauf dans son bureau où là le téléphone est visible. Il a fait, voilà, il a installé par exemple des salles de sport hyper modernes à l'époque. Par exemple, une petite anecdote, il y a exactement les mêmes instruments que sur le Titanic. C'est le même constructeur, la même année. Et voilà, donc après il y a plein de choses. Il a fait installer aussi un orgue qui est manuel ou automatique avec des rouleaux. Donc il pouvait laver des invités, donc il mettait soit du jazz ou plein de musique avec des rouleaux. Et c'est le seul encore orgue européen qui fonctionne encore. Tout est d'époque, sauf évidemment, après ça a été numérisé, je ne pourrais pas dire au niveau des relais électriques, mais sinon tout est à l'origine et c'est le seul en Europe qui fonctionne encore. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes.
Et justement, nous on peut seulement se contenter de la vue qu'on a depuis le château, ouais. Et puis de la belle architecture qu'on voit déjà depuis l'extérieur du parc.
Tout à fait.
Mais à l'intérieur, tu commençais à nous décrire toutes les technologies qu'on peut déjà y trouver.
Il y a plein de pièces vraiment fabuleuses. Bah, justement, au niveau des technologies... Monsieur Bedoua, par exemple, avait fait installer l'électricité, par exemple des prises qui sont au sol, on ne les voit pas, ou alors en hauteur. Voilà, il a installé le chauffage central, et c'est peint de marron, comme les boiseries, donc il a vraiment camouflé au maximum, et toutes les parties qu'il a fait reconstruire s'allient avec la partie moyenâgeuse. Donc d'extérieur, à moins d'être un expert, on en a du mal à différencier la partie 1800, la partie Moyen-Âge. Quoi. Et après, je crois qu'il y a 54 pièces de mémoire, je ne suis pas sûr, plus les combles, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses.
Et comment, justement, ce château, aujourd'hui, il appartient au département, c'est bien?
Alors,
ça
voilà, c'est ça. En 1974, c'est le conseil départemental d'Indre-et-Loire qui en a hérité. Donc, Fern Bedeau a fait legs... Je crois qu'elle est morte en 74, dans ces années-là. Elle a légué le château au département. Déjà, je crois, à l'État, et après l'État l'a rétrocédé, ou c'est le département qui l'a racheté. Voilà, je ne suis pas guide, donc je ne sais pas tous les tenants et les aboutissants, mais voilà, en gros, c'est ça.
Et le festival Terre du Son, du coup, ça se passe dans justement les jardins, le parc de ce domaine.
C'est ça.
Et depuis quand ?
Alors là, moi, je viens juste d'arriver, donc je ne pourrais pas dire, je pense qu'il y a plusieurs années. Je pense peut-être 10 ans, voire plus. Là, je ne pourrais pas te dire. Je pense que les organisateurs t'en diront plus. Mais oui, ça fait quelques années et ça draine beaucoup de monde. Je crois qu'on attend plus de 5000 personnes, je crois, cette année. Toutes les places ont déjà été, pour les concerts, ont été réservées.
Et pour ce festival Terre du Son, du coup, comment ça se passe pour toi ?
Eh ben moi, du coup, ça chamboule un peu. C'est vrai que bon, j'ai une grosse partie ménage habituellement, surveillance. Donc là, je suis un petit peu coincé partout. Donc voilà, j'essaye de gérer au mieux, de voir si tout se passe bien, si les gens ont besoin de quelque chose. Voilà, d'être accueillant. Et plus, ma maison est située vraiment à l'entrée du domaine. Donc voilà, je renseigne les gens et j'essaye de les guider.
Tu es bien situé pour Terre du Son.
Et je suis très bien situé, voilà, au niveau sonore. Et puis donc, j'ai un pass en plus 3 jours, donc... Ça, c'est super. Je vais pouvoir profiter, étant musicien moi-même, des concerts.
Eh ben, merci beaucoup, Philippe.
Mais je t'en prie, avec grand plaisir.
Répondu à nos
voilà, j'ai fait au mieux. Voilà, après, je te redis, je ne suis pas guide, mais bon, voilà.
Eh ben, c'était J'espère très que bien, ça t'a satisfait. Je suis satisfait. Sûr que nos auditeurs seront.
En tout cas, voilà. Venez voir, vraiment, c'est un domaine hyper intéressant à voir au niveau architectural et historique. Oui, ça va être après Terre du Son, justement, tous les jours. C'est ouvert tous les jours jusqu'à 19h. Donc, venez, voilà. C'est sympa. Et en plus, ce cadre est agréable, il y a des arbres, on peut manger, il y a des jeux pour les enfants, il y a plein de choses hyper sympas.
Et puis, vous serez bien accueillis.
Et voilà, on vous accueillera avec grand plaisir.
Et ben merci beaucoup, Philippe. Et puis,
merci
très
beaucoup.
Bon festival à toi.
Merci, vous aussi, et à bientôt à tout le monde.
Et voilà, cette petite interview qu'on a pu faire avec Philippe. Merci beaucoup à lui. Il est midi 58 sur Radio Campus Orléans. On arrive déjà à la fin de l'émission Écoute ta fac, mais ne vous en faites pas, d'autres émissions s'enchaînent cet après-midi. À partir de 13h, on enchaîne avec Novorama. À 14h, retrouvez les cahiers de l'emploi. À 15h, ce sera le moulin à parole. De 19h à 20h, vous retrouverez À bâton rompu. Puis, pour passer votre soirée en musique, à 20h, retrouvez Ride On. Et de 22h à minuit, le catalogue électronique. Voilà, très bonne fin de journée à vous. Demain, on se retrouvera pour recevoir notamment la présidente d'Emmaüs Loiret dans Écoute ta fac. Ce sera notre invité de demain. D'ici là, passez une très très bonne journée. Ciao, ciao. Et on enchaîne, Jackson, avec quel titre ?
On enchaîne avec I Cannot de Lucas Drucker. We'll be right back.